et nous espérons réellement que M. Blinken, en passant par Congo et en allant à Kigali, il va rappeler que nous sommes des voisins, nous avons tout intérêt à marcher dans la paix. C'est ça aussi sauvegarder les intérêts américains qui passent par la RDC avec toutes les matières premières que nous avons ici pour l'industrie mondiale.
Anastasie Tudiège pour VOA Afrique, Kinshasa.
Place maintenant à nos invités pour débattre de tout cela. Ici à Washington, nous avons René Lake, analyste politique. À Montréal, Henri Désiré Zouzi, analyste politique, producteur associé du JT diplomatique. Et à Kigali, Jean-Pierre Karegeye, professeur à Dickinson College, ici aux États-Unis. Alors, merci à tous. René, deux visites du patron de la diplomatie américaine en l'espace de 9 mois, un sommet Afrique-États-Unis annoncé pour décembre. Comment est-ce que vous interprétez tout cela?
Écoutez, je crois que d'un côté, on peut dire que c'est l'expression d'une rupture entre l'administration Biden et l'administration Trump par rapport à son intérêt et son engagement. J'insiste sur ce dernier mot, engagement en Afrique. Donc cela est manifeste. Je sais qu'effectivement, il peut y avoir deux lectures. C'est la première, c'est de la continuité par rapport à l'administration Obama et même aux administrations républicaines antérieures. Et la deuxième lecture, c'est la lecture de la compétition féroce, entre guillemets, entre Chine, la Russie et les Amériques qui se joue sur le terrain africain. Donc il y a ces deux lectures-là et je pense qu'il y a un peu des...
D'accord. Alors, Henri, cette nouvelle stratégie américaine envers l'Afrique subsaharienne qui a été dévoilée cette semaine a pour objectif, entre autres, de contrer la Chine et la Russie, mais Anthony Blinken a tenu à préciser que Washington ne cherchait pas à surpasser qui que ce soit, mais voulait plutôt un partenariat qui soit bénéfique pour tous. Alors, pour vous, sur quoi doit s'orienter cette nouvelle politique américaine?
Écoutez, d'abord, je crois qu'il s'agit ici pour les États-Unis de ne pas perdre du terrain face à des acteurs émergents sur le continent qui se montrent d'ailleurs beaucoup plus agressifs et plus volontaristes pour prendre pied sur le continent africain. Donc, on dira très simplement que les intérêts américains ont été sérieusement contrariés ces derniers mois et qu'il fallait reprendre l'initiative. Maintenant, pour ce qui est des grands principes, on revient évidemment à l'éternel discours du partenariat gagnant-gagnant, mais tout le monde sait très bien que, à l'heure actuelle, les États-Unis incarnant un certain leadership, il sera très difficile pour les pays africains, même ceux d'ailleurs qui ont reçu la visite du secrétaire d'État américain, de pouvoir espérer un tel partenariat. Reste que nous verrons ce que cela donnera au mois de décembre, lorsque Joe Biden recevra ses homologues africains.
D'accord. Jean-Pierre, dans sa nouvelle stratégie, Washington veut mettre un peu, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mettre l'accent sur le non-militaire tout en favorisant l'investissement sur le continent. D'ailleurs, une stratégie notamment en matière d'investissement privé qui a commencé avec l'administration précédente. Washington qui compte mettre en exergue sa différence d'approche avec les autres acteurs internationaux. Comment s'y prendre?
Oui, et je crois que comme ça a été souligné par les deux autres, il y a une situation, je dirais, il y a un tournant dans les relations internationales. Donc ce n'est plus, c'est vrai, ce moment de la guerre froide, ce n'est plus aussi ce moment du sens unique, c'est-à-dire après la chute de l'URSS, mais nous sommes dans un moment où il y a d'autres opportunités, où les pays africains, où surtout il y a par exemple la Russie, la Chine, l'Inde et autres, et ces pays qui deviennent très très agressifs vis-à-vis de l'Afrique. Et donc, c'est vrai, on a souligné par exemple opportunités économiques dans ce nouveau document américain qui vient de sortir, mais moi je crois que c'est une prise de conscience où l'Afrique, il ne s'agit pas seulement de la politique américaine vis-à-vis de l'Afrique, mais c'est un moment où les pays africains peuvent aussi décider de leurs partenaires, et surtout face à cette polarisation du sens, où je crois que c'est ce qui amène les pays surtout les États-Unis, pas seulement les États-Unis, mais aussi la France, à devenir beaucoup, ces pays à devenir beaucoup plus agressifs aussi vis-à-vis de l'Afrique.
D'accord. Et René, en fait, entre la compétition économique avec la Chine et les enjeux géopolitiques ou sécuritaires avec la Russie en Afrique, qu'est-ce qui, selon Washington, selon vous en tout cas, préoccupe le plus Washington?
Écoutez, il y a déjà une remise à niveau de la relation économique et la relation commerciale. Vous savez, en 2008, au début des années Obama, les échanges tournaient autour de 100 milliards de dollars par an. En 2000, il y a juste 3 ans, c'est tombé à 41 milliards de dollars sous l'administration Trump. Donc une chute de plus de moitié. Donc je pense qu'il y a déjà un recadrage à ce niveau-là qui est important, important. Le deuxième aspect, c'est sûr qu'il y a cette rivalité avec la Russie et la Chine, mais je ne pense pas que ce soit aussi déterminant qu'on ne le dit dans la presse africaine que je lis tous les jours, parce que si c'était le cas, il n'aurait pas choisi 3 pays qui sont au fond parmi les 3 plus grands alliés des Américains en Afrique. Il serait allé dans d'autres régions pour essayer de conquérir de nouveaux espaces. Je crois que la question centrale, ça reste la question économique et commerciale, mais également le développement d'une nouvelle stratégie qui soit plus multinationale, multilatérale, contrairement encore à l'administration Trump qui était plus dans une dynamique bilatérale.
Henri, Washington veut favoriser l'investissement privé américain sur le continent, mais les investisseurs ont besoin de stabilité politique et de sécurité. Est-ce la raison, disons un peu, de l'intérêt du secrétaire d'État à cette tension entre la RDC et le Rwanda? Vous pensez que son voyage pourrait permettre de faire baisser cette tension?
Alors, d'abord, le secrétaire d'État américain est venu en sachant pertinemment bien qu'il y avait déjà 2 initiatives concomitantes, le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Ceux qui espéraient de sa part une condamnation ouverte, malheureusement, ne pouvaient pas l'espérer, pour la simple et bonne raison que dans ce type de tournée, il faut être, j'allais dire, politiquement correct et ne pas, j'allais dire, anticiper sur un échange ou une discussion que l'on pourrait avoir, ce qui s'est passé d'ailleurs à Kigali quelques jours plus tard. Mais c'est vrai qu'une désescalade entre le Rwanda et la RDC serait profitable, je dirais, à la sous-région, d'abord en termes de détente, puisque c'est la seule chose à laquelle aspirent les Congolais, un retour à la normale, et puis surtout cela permettrait de rassurer, bien évidemment, pas seulement les investisseurs, mais tous ceux qui considèrent qu'un Congo économiquement stable et politiquement stable serait effectivement une opportunité pour les autres pays de la sous-région et partant de là du continent. Donc à ce niveau-là, je pense que les choses sont intimement liées. Il faut un cadre qui puisse être propice aux investissements, mais surtout qui permette aux Congolais et aux voisins de vivre en bonne intelligence.
Et il y a surtout la question de l'exploitation des matières premières qui est aussi importante pour des pays comme les États-Unis, mais dans un cadre, disons, sécurisé et transparent.
Oui, bien évidemment, parce qu'il est important de savoir qu'à ce niveau-là, et je pense que vous faites aussi indirectement allusion à ce qui s'est passé il y a de cela quelques jours, c'est-à-dire la capacité, voire même la responsabilité qu'a la RDC de pouvoir mettre en valeur un potentiel inexploité, qui ne demande qu'à l'être avec des acteurs, des partenaires qui sont prêts à jouer le jeu et à permettre à la RDC de pouvoir, j'allais dire, accroître ses marges de manœuvre en termes de croissance.
Et vous, Jean-Pierre, avez-vous espoir que la diplomatie américaine aidera à un rapprochement entre Kigali et Kinshasa, surtout que cela semblait être le cas depuis en tout cas l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir jusqu'à la reprise des activités du M23?
Oui, disons, en parlant d'espoir ou de la diplomatie, j'aimerais d'abord, pour le moment, je vis aux États-Unis, mais je me trouve au Rwanda, et j'étais à la frontière, donc entre le Congo et le Rwanda, donc surtout de la partie de Gisenyi et Goma. Et comme vous le savez, Goma et Gisenyi, c'est une des frontières où il y a les habitants de part et d'autre qui traversent peut-être la troisième la plus importante au monde. Et donc ça, c'est une réponse qui est apportée par les populations de part et d'autre. Et deuxièmement, quelque chose que j'ai constaté, et je ne sais pas si vous le savez, il y a un cimetière commun de part et d'autre. C'est le même Dieu. Donc ça, c'est extraordinaire. Et troisièmement, et peut-être j'ai vu aussi, il y a des maisons qui sont construites, et il y a une maison, par exemple, d'un Congolais que j'ai vu, c'est il y a du côté congolais et du côté rwandais. Donc, si on parle des solutions, je crois qu'il y a déjà un potentiel de par les populations. Qu'est-ce qu'on peut attendre des États-Unis? Moi, je crois que le plus important, c'est vrai, c'est d'abord ces accords qui existent, les accords de Nairobi, les accords de Luanda, mais aussi la façon de palper les réalités de ces deux pays ou de la région des Grands Lacs. Je crois qu'il y a des problèmes et qu'il faut évidemment évoquer et essayer de trouver une solution et de part et d'autre. Et il y en a beaucoup.
D'accord. Alors, donc, on va certainement revenir dans le cadre d'une autre émission sur les retombées de cette médiation américaine concernant tension, si on peut parler de tension, entre le Rwanda et la RDC. On est obligé d'aller un peu plus vite pour prendre quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Archiduc Théodore à Niamena nous dit que les relations entre les États-Unis et l'Afrique doivent se situer sur l'exploitation des matières premières, la recherche de la main-d'œuvre locale, la création d'emplois, les recherches scientifiques et le tourisme. L'Afrique a besoin d'un partenariat gagnant-gagnant avec les grandes puissances pour s'industrialiser et se développer. Pacome Assier est en Côte d'Ivoire. Il écrit l'Afrique doit compter sur elle-même. Ni les États-Unis, ni la Russie, ni l'Union européenne, encore moins la France, ne peuvent développer l'Afrique. Chacun vient en Afrique pour son intérêt exclusivement. Et puis, Yao Marcelin Kofi, il est à Abidjan. Il écrit, il a fallu l'influence très remarquée des Chinois, des Russes et des Turcs sur le continent pour que les États-Unis s'engagent à réorienter leur politique en Afrique. Je souhaite que nos dirigeants profitent de cette diversité de partenaires pour sortir l'Afrique du sous-développement. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause.
Se raconte et se rencontre. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous, c'est nous,
c'est vous et nous.
Pour la seconde partie de Washington Forum, et je rappelle nos invités ici à Washington, René Lake, analyste politique consultant, à Montréal, Henri-Désiré Zouzi, analyste politique, producteur associé du JT diplomatique, normalement basé à Bruxelles, je dois le signaler, et à Kigali, Jean-Pierre Carrier-Gueyre, professeur à Dickinson College, ici en Pennsylvanie, aux États-Unis. Alors, René, visiblement, le continent a attire les convoitises des grandes puissances. Alors comment l'Afrique, question simple, hein, comment l'Afrique peut-elle tirer son épingle du jeu, même si tous les pays africains n'ont pas forcément les mêmes intérêts?
Écoutez, Abdourahmane, un de vos éditeurs que vous citiez tout de suite sur Facebook, l'a dit de manière très pertinente. C'est d'abord en comptant sur elle-même, en développant ses propres capacités. Tout à l'heure, on parlait des ressources en RDC, selon des sources américaines, think tank ici, 24 trillions de dollars de ressources inexploitées. 24 trillions, on ne sait même pas ce que ça représente. C'est 24 000 milliards de dollars de ressources inexploitées en République démocratique congolaise, et regardez le reste du continent. Le potentiel est énorme, mais il y a toujours, quoi que l'on dise, l'économie, pour l'essentiel, reste encore une économie coloniale, c'est-à-dire qu'elle est basée sur des exploitations et sur des besoins qui répondent aux besoins de l'extérieur, notamment des anciens colonisateurs pour la plupart des pays, plutôt qu'aux besoins de développement de leur pays. Donc il y a toute une stratégie africaine à repenser, et effectivement, je pense
que des pays comme les États-Unis, la France, l'Angleterre, les anciennes puissances coloniales peuvent être des partenaires, mais uniquement des partenaires et non pas des decision makers, comme on dit en anglais, des gens qui prennent les décisions pour les Africains.
Henri Zosé, pour revenir au nouveau document stratégie américaine envers l'Afrique subsaharienne, dévoilé donc cette semaine, Washington reconnaît l'importance du poids démographique de l'Afrique et son rôle aux Nations Unies, dont il est le plus important bloc. En quoi ces deux aspects, la démographie et le bloc africain à l'ONU, peuvent-ils être des atouts pour l'Afrique aujourd'hui?
Alors, si vous permettez, je voudrais juste dire qu'il serait bon aujourd'hui et enfin temps que l'Afrique arrête de se considérer comme un terrain de jeu pour ses différentes puissances. Il faut effectivement que l'Afrique crée les propres conditions de son développement et puisse être en capacité de se choisir librement ses alliés. Ça, c'est très important. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, il faut effectivement que l'Afrique puisse être non seulement en capacité, comme je viens de l'expliquer, de pouvoir fixer d'une certaine manière les règles du jeu, même si on sait très bien en réalité qu'en matière de commerce international et d'économie, il y a encore des pans entiers de leur activité qui dépendent de l'extérieur. Mais il est tout à fait possible de créer, ou en tout cas de trouver des marges de manœuvre qui permettent notamment à l'Afrique de peser dans certains secteurs, à condition bien évidemment qu'il y ait une mutualisation de ces efforts. Parce que ce discours que nous entendons aujourd'hui des États-Unis n'est pas du tout nouveau. C'est un discours qui remonte à une vingtaine d'années, mais qui, tous les 5 ans, tous les 10 ans, est remis au goût du jour en fonction des intérêts. Et on le sait, aujourd'hui, les intérêts américains sont sérieusement bousculés à cause précisément de l'émergence de nouveaux acteurs qui arrivent avec de nouvelles règles, avec de nouvelles conditionnalités qui ne sont pas forcément, du goût des Américains ou des Occidentaux, et c'est en cela que l'Afrique aujourd'hui est en capacité de mettre en concurrence ces différents acteurs pour trouver son compte.
Alors Jean-Pierre Caleguet, l'Afrique a souvent du mal à parler d'une seule voix, n'est-ce pas? Mais est-ce que ce n'est pas justement l'occasion de s'entendre au moins sur certaines questions, comme la réforme du Conseil de sécurité qui donnerait au moins une place de membre permanent à l'Afrique, ou même la question de l'exploitation des ressources des matières premières?
Oui, que l'Afrique ne parle pas d'une voix, c'est lié, disons, c'est une conséquence, entre autres, de la colonisation, mais en même temps, c'est-à-dire où vous avez une Afrique qui se définit comme francophone, une autre Afrique qui se définit comme anglophone, lusophone, etc. Mais je crois que c'est assez important, au-delà de cette question, de cette barrière ou question linguistique, que l'Afrique puisse prendre à main et son propre destin. Et certains l'ont dit. Je crois qu'au niveau de l'Union africaine, il y a eu des tentatives et à différents moments où on s'imaginait, par exemple, un commerce intérieur au niveau de l'Afrique, mais aussi, comme vous l'avez dit, parler d'une seule voix face à certaines questions importantes. Et donc, je crois l'attitude des États-Unis dans l'introduction de ce document, en parlant de la démographie en Afrique, le poids de l'Afrique, c'est important. Donc, je crois que le changement au niveau des Nations Unies est possible et en train de se passer, et surtout avec l'Inde, la Chine et la Russie, et donc où peut-être même les votes pourraient être redistribués autrement, et c'est peut-être dans ce sens-là qu'on pense aussi à l'Afrique. Mais je crois que le plus important, ce n'est plus ce que les autres pensent de l'Afrique, mais c'est que l'Afrique se prenne en charge, et que ce soit au niveau économique, au niveau politique, et se pense aussi comme un bloc.
D'accord. Et René, pour vous, cette crise ukrainienne qu'on est toujours en train de vivre a-t-elle donné à l'Afrique l'occasion de montrer un peu sa place dans le monde dans ce contexte de rivalité entre grandes puissances?
Oui, je ne sais pas. Je sais que effectivement, le vote des Africains aux Nations Unies a contrarié les espoirs, ou j'ai envie de dire les désirs, des Occidentaux, notamment des États-Unis et de l'Europe occidentale. C'est une évidence, mais au-delà de la dimension diplomatique, je ne pense pas que ce soit essentiel. Je fais partie de ces gens qui pensent qu'au fond, l'Afrique a très peu à dire ou a très peu à faire sur ce conflit. Par contre, elle est une des grandes victimes, comme vous le savez, par rapport à cette question de l'exportation d'un certain nombre de produits, notamment de produits agricoles et du blé, pour être plus précis. Mais au fond, certains diront que ce n'est peut-être pas nécessairement une mauvaise chose. Ça permettra aux Africains de comprendre encore une fois de plus qu'il faut absolument réorienter leur production et cesser d'être des économies tournées vers les besoins d'un ou deux clients avec lesquels ils ont un lien historique particulier, notamment celui de la colonisation.
D'accord, et justement, Henri, sur cette crise ukrainienne, on a vu des pays africains souvent traditionnellement alignés à la position des Occidentaux, comme le Sénégal, s'abstenir sur beaucoup de votes. Comment est-ce qu'on peut partir? Est-ce que c'est ce qui explique un peu ce regain, cette poussée diplomatique américaine, par exemple?
Oui, écoutez, vous savez, lors du vote au niveau du Conseil de sécurité, il y a de cela quelques semaines, qui a reconduit le régime des sanctions en RDC, on a vu les trois pays africains, membres non permanents du Conseil de sécurité, voter, ou plutôt s'abstenir aux côtés de la Chine et de la Russie, le Kenya, le Ghana et le Gabon. Ce qui montre bien qu'il y a une prise de conscience et surtout le fait que ce conflit ukrainien a d'une certaine manière fait sauter un verrou psychologique. C'est celui, j'allais dire, de la dépendance de certains pays africains, notamment aux Nations Unies, en termes de vote, d'opportunité, car on le sait, c'est toujours une question d'équilibre et de rapport de force, de donnant-donnant. Aujourd'hui, on regarde cette situation froidement avec à l'idée, la nécessité de pouvoir, j'allais dire, donner un point de vue qui puisse être en rapport avec les convictions, avec, j'allais dire, les croyances, mais surtout la stratégie des États. Aujourd'hui, il n'est plus question de s'aligner aveuglément sur telle ou telle position. Il s'agit de prendre date et d'agir en toute responsabilité.
Et vous, Jean-Pierre, cette crise ukrainienne, sur le plan diplomatique, a-t-elle été l'occasion pour l'Afrique de se faire désirer davantage?
Oui, certainement, parce que vous avez vu les différentes visites des diplomates.
Lavrov aussi, oui, était récemment.
Étrangères, justement, les affaires étrangères russes en Afrique. Donc, c'est pour amener les pays africains à pouvoir se positionner. Et on a vu qu'il y a un certain nombre de résistances. Et je crois qu'au-delà de l'Ukraine, Ukraine comme symbole, évidemment, il y a aussi des pays, surtout dans des pays aussi francophones comme le Mali et ailleurs, des pays aussi qui veulent repenser leurs relations avec les anciennes colonies comme la France, etc. Et je crois que cela aussi, et par rapport aux États-Unis, et ça pose question, et les pays aussi veulent revoir leurs relations. Et pour revenir même à la question, par exemple, de la crise dans l'Afrique, en Afrique de l'Est, je crois que le plus important, c'est ce qu'on peut attendre des deux pays, par exemple du Rwanda et du Congo, mais aussi de Nairobi et de Luanda, que se demander ce que les États-Unis peuvent faire pour les pays africains.
D'accord. Et René, pour terminer, où est-ce que vous voyez tout cela aller, surtout après la visite de Blinken en Afrique, en 30 secondes?
Oui, Abdourahmane, en Afrique du Sud, Blinken disait que les États-Unis veulent sortir d'une relation transactionnelle avec l'Afrique. Eh bien, malheureusement, j'ai le sentiment qu'on est toujours un peu dans ça. Et c'est là où l'Amérique pourrait jouer un rôle important, parce que historiquement, ce n'est pas un pouvoir colonial en Afrique. Il pourrait aider les pays africains à changer cette dynamique-là qui les lie de manière absolument étouffante avec les anciennes colonies. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que l'Amérique fait, parce qu'au contraire, elle est plus arrangée par une sorte de stabilité des anciens pouvoirs coloniaux en Afrique.
D'accord. Merci beaucoup, frère, de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com, sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.